Bienvenue à tous ceux qui sont nouvellement arrivés là pour cette deuxième saison. Alors donc là on avait Crédit Sautier, maintenant avec Christophe Arleston qui scénariste depuis toi, ça fait 25 ans.
Que je suis scénariste ça fait 30 ans, que je vends des scénarios ça fait 20 ans.
D'accord. Donc on va aborder quelque chose. Et puis en plus toi tu as quand même t'es plus dans des séries quand même plus proches de la fantasy, tu as beaucoup de séries de la fantasy. T'as commencé par un scénario un peu policier finalement.
Bah, je fais un peu de tout. En fait, ce qui a remporté le plus gros succès, c'est de la fantasy, ouais. Mais c'est pas. Je continue une vieille série qui s'appelle Léo Loden, qui est un polar qui se passe à Marseille. J'ai fait un peu de SF à un moment donné. J'ai pas la notion de genre. J'aime pas catégoriser les séries par genre. Pour moi, je fais avant tout pour la plupart des séries d'humour. Et après, bon, bah, il se trouve que c'est dans le cadre de la fantasy, dans le cadre de, du polar ou d'autres choses. Mais je ne me pose pas la question du genre.
Ouais, je vais commencer quand on a commencé tout à l'heure avec Révis. C'est une première question, finalement. À quoi sert un scénario?
Un scénario sert à avoir une histoire qui fait que le lecteur ne s'emmerde pas à juste regarder des jolis dessins. Donc c'est la différence entre un portfolio et un album de bande dessinée. Le scénario, évidemment je prêchais pour ma paroisse, mais je crois que tout le monde est quand même d'accord pour le dire, c'est la base. C'est-à-dire qu'il faut avoir avant tout une bonne histoire à raconter. La bande dessinée, c'est une narration. C'est pas un tableau, c'est pas une suite d'illustrations, c'est une narration. Donc on est là pour raconter des histoires, une histoire... Eh ben, c'est le destin d'un personnage, on va suivre un ou plusieurs personnages, on va l'amener d'un point A à un point B, et le plus important c'est toujours de savoir où on va, quel est le point d'arrivée. Dans ma façon de travailler, alors il y a des scénaristes qui travaillent avec des méthodes très différentes les uns des autres, hein, c'est pour ça que c'est intéressant que vous en voyez plusieurs ce soir. Moi je fais partie des improvisateurs. Je construis très peu un scénario. Je connais mon point de départ, mon point d'arrivée, mais je ne sais pas par quel chemin je vais passer. Je me laisse toute liberté de pouvoir aller au gré, de suivre les personnages. En fait, il y a des moments où j'ai l'impression d'être un peu un caméraman, reporter, qui suit ces personnages et qui les observe, et eux me précèdent, et ils m'amènent à un endroit, à un autre endroit. Bon, de temps en temps, je dis, là, tu m'as amené dans une impasse, cette partie-là, on va la couper, hop, on va revenir à l'embranchement d'avant, et j'efface les pages que j'ai faites. Mais je préfère avoir cette liberté d'errance, tout en sachant quand même quelle est ma direction générale et où je dois les amener ensuite. Je travaille, par exemple, exactement à l'inverse de la méthode de mon camarade Jean Van Damme, qui, lui, est un ultra précis, qui va bosser 2 mois son Largo Winch, en construisant un synopsis hyper détaillé. C'est un mécanisme d'horlogerie très pointu, très précis, il sait exactement où il va, et c'est une méthode que moi j'admire beaucoup. Je serais incapable de travailler comme ça, parce que je m'ennuierais assez vite à avoir un synopsis trop détaillé, donc plus aucune surprise à l'écriture, et à ne faire qu'appliquer l'écriture derrière. C'est vraiment des choses différentes. Et bah, quand Jean d'ailleurs m'avait demandé à un moment donné, quand il a lancé les 13 mystéries, il y a 5-6 ans, il a commencé à en parler, il m'a demandé d'en écrire un. J'ai dit, écoute, honnêtement, je ne saurais pas faire ça. C'est pas du tout dans mon mode de fonctionnement. Moi, je préfère vraiment laisser les personnages, c'est-à-dire les relations humaines, les groupes. Je travaille beaucoup avec des groupes de personnages. J'ai rarement un héros isolé. Donc j'ai toujours un petit groupe où il y a 2-3 personnes. Dans l'Enfeust, ça va être... l'enfeuse lui-même, les 2 sœurs, le vieux sage, et puis le troll. Et donc, comment va fonctionner la comédie humaine entre les 3? Comment vont évoluer les relations entre les 3? Enfin, les 3, les 4, les 5. J'en sais trop rien au départ, et je les regarde agir. Et finalement, les histoires elles-mêmes viennent des relations humaines. Et ce qui va leur arriver, les aventures qu'ils vont vivre, viennent du type de relation que je développe entre eux. Puisqu'une fois qu'on a bien défini le caractère d'un personnage, il a finalement plus qu'une seule manière d'agir dans une situation donnée. Donc, on connaît son perso, on sait qui il est, on voit dans quelle situation il est, finalement, le chemin qu'il va prendre est quasiment inévitable. Donc, c'est l'interaction avec les autres personnages qui va pouvoir faire dévier ce chemin. Et bon, c'est une façon, je sais, qui n'est pas très orthodoxe. Moi, je travaille un peu comme les romans feuilletonistes du 19e, comme les Ponsons du Terrail, comme les Alexandre Dumas, qui, au fil du feuilletonnant, improvisaient. Et puis l'important, c'est après, évidemment, d'arriver à retomber sur ses pattes, parce qu'on arrive à un moment où on est aux deux tiers de l'histoire à peu près, où on a envoyé des fils dans toutes les directions. Et puis là, il faut être par contre très attentif et très technique, récupérer chacun des fils qu'on a envoyés et puis tous les regrouper pour faire un nœud à la fin, que l'ensemble soit cohérent et que l'ensemble se tienne. Mais il m'arrive dans des albums d'avoir des choses qui sont absolument imprévues et de jouer avec cet imprévu, et finalement ça devient des ressorts importants du scénario. Vous posez des questions, enfin, si vous voulez poser des questions, intervenir, tout ça,
vous pouvez,
parce que là je parle, mais je ne sais pas ce qui vous intéresse, ce qui ne vous intéresse pas dans ce que je dis. N'hésitez pas à poser des questions. Hein.
Vous avez un exemple concret de ce que vous venez de dire dans un de vos albums?
Sur le côté impro complète.
Imprévu qui prend une grosse place au final dans ce
scénario. Oui, bah sur le cycle L'Enfeuse des Étoiles, pour ceux qui l'ont lu, en fait, à un moment donné, ça part d'une connerie, je fais quitter le héros, je lui fais quitter un village avec des gens qui vont lui coller des provisions de bouffe, des tas de... J'avais indiqué à Didier Tarkan, le dessinateur, il lui filait des sacs de bouffe, des jambons, des trucs et tout, et lui, il m'a rajouté une chèvre et une poule. Bon. Et puis au bout de 20 pages, ils n'étaient pas dans le scénario, et lui, il continuait à dessiner cette putain de chèvre et cette putain de poule qui suivaient, quoi qu'il arrive. Et à la fin de l'album, je me dis, bon, je vais les envoyer dans un espèce de maelstrom par lequel il va passer, un maelstrom de flotte, et là, la chèvre et la poule, hein, cette fois, c'est fini. Bon, je vois arriver la page, j'ai la chèvre et la poule en train de faire du surf sur un petit coup de planche. Donc je me suis dit, bah, voilà, il y tient, on va pas arriver à ça. Puis ça devenait un jeu entre nous, évidemment. Moi, je faisais tout pour essayer d'en débarrasser, il faisait tout pour le ramener. Et finalement, il se trouve que plus loin dans l'histoire, j'ai utilisé cette poule et finalement, je l'ai amenée au centre même du récit, puisqu'à la fin, c'est grâce aux œufs de cette poule que le monde va être sauvé. Donc ce qui n'était pas du tout prévu dans le scénario de départ. Mais les œufs de cette poule, un cube, une bactérie, qui fait que finalement on va pouvoir tuer les méchants avec. Voilà, bon, ça c'est le fil assez simple. Mais c'était absolument pas prévu le coup de la poule. Donc finalement l'univers est sauvé parce que Tarkin a eu envie de me faire chier avec une poule. Voilà. Mais c'est savoir utiliser justement, bricoler. Moi j'aime bien le scénario à la MacGyver, quoi. T'es là, tu regardes ce que t'as comme élément et hop, qu'est-ce qu'on va pouvoir bricoler avec ça? Ça fonctionne ou pas, mais enfin bon, dans mon cas, parce qu'après, évidemment, je le raconte comme ça, ouais, on fait n'importe quoi, on s'éclate, ça marche toujours. Non, après, il faut un peu de la technique, il faut être très attentif à rien oublier, bien noter chacun de ces éléments, voir comment on peut les réutiliser, et surtout quand on est dans le cadre de la fantasy, être cohérent à l'intérieur de son propre univers. C'est-à-dire que, alors, évidemment, il y a des règles, enfin, L'Enfeuse, c'est pas un univers crédible. Les gens ont des pouvoirs magiques déjà. Bon, bah normalement, on n'en a pas, quoi. Mais par contre, une fois qu'on a fixé la règle, chacun a un pouvoir et un seul. Les animaux doivent être zoologiquement crédibles. C'est-à-dire que toutes les créatures qu'on trouve sur le monde de Troie sont des créatures zoologiquement plausibles. Les dragons sont des sauriens. J'utilise pas par exemple des chimères avec des harpies à tête de femme ou des lions avec des ailes ou tout ce qu'on a dans la mythologie antique, tous ces animaux zoologiquement improbables. Non, moi je veux qu'on ait des animaux qui fantastiques bien sûr, mais auxquels on puisse croire, qui ont quelque chose de vrai, qui ont des résonances avec notre univers. Donc il est très important d'être cohérent et crédible à l'intérieur de son propre univers, pour pas faire sortir le lecteur. Parce que dès qu'on va lui balancer un élément qui là va être trop gros, hop, d'un coup il va prendre un pas de recul et il va s'apercevoir que tout est faux. Or c'est comme au théâtre, on doit faire rentrer dans la convention théâtrale. Quand on est devant une pièce de théâtre, on sait que c'est une scène avec trois côtés, et un quatrième côté où il y a le public, où il y a la salle, et normalement, il ne faut jamais regarder le public, jamais aller vers la salle, c'est un endroit qui n'existe pas, et c'est une convention théâtrale, et si d'un coup un comédien se met, alors après, je ne parle pas du one-man show où les mecs vont jouer avec la salle, mais je parle quand on est en train de jouer à Shakespeare, ou à une pièce de Corneille, on ne se retourne pas vers la salle et on ne commence pas à regarder la salle, parce que sinon les gens se sentent inclus dans l'ensemble, du coup prennent du recul et ne croient plus au décor qui est sur scène. Puisque quand on est dans la pièce, on croit au décor qui est sur scène, on croit qu'on est vraiment dans un salon avec un escalier et que la porte va donner sur le jardin et l'autre sur la cour. Enfin, on fait semblant de le croire, on joue le jeu. Et de la même chose dans un univers fantastique, on rentre dans ce jeu-là, mais il faut donner, il faut jamais donner au lecteur l'occasion de pouvoir sortir de ce jeu-là. Enfin, je ne sais plus ce que je disais avant.
Je pense que répondre à la question de monsieur. Donc, tes relations avec les dessinateurs.
Très mauvaises.
Très mauvaises, je vois bien, puisque avec Tarquin, tu fais des niches ou des trucs comme ça. Non, est-ce que...
C'est important, dans ma façon de travailler, c'est important d'avoir une grande complicité avec le dessinateur. Alors là, une fois de plus, il y a diverses écoles. Il y a des gens qui peuvent travailler, écrire un scénario de la première à la dernière ligne, le confier à un dessinateur qui va se l'approprier, qui va en faire un bon album ou quelque chose qui va décevoir le scénariste, enfin peu importe. Mais ça va être deux équipes qui vont travailler séparément. Alors ça, c'est une façon de faire. Moi, qui personnellement me mettrais mal à l'aise et avec lequel je ne pourrais pas travailler, j'ai besoin de complicité avec le dessinateur. J'ai besoin, déjà, avant même qu'on commence à travailler, qu'on se connaisse bien. J'ai quasiment jamais travaillé avec un dessinateur qu'on m'a présenté comme ça et puis pouf, on s'est mis au boulot. C'est que des gens que je connaissais depuis des fois des années. Je fais une nouvelle série qui s'appelle Echo avec Alessandro Barbucci. Alessandro, on se connaît depuis 15 ans. Et puis, voilà, un jour, on m'a dit, bon, bah, allez, maintenant, on fait un truc ensemble. Allez, on fait un truc ensemble. Mais j'ai besoin de savoir qui est le dessinateur pour savoir ce qu'il va avoir vraiment envie de dessiner, lui. Donc, là où il va être bon. Je conçois le métier de scénariste comme tailleur de costard sur mesure. Il faut connaître les qualités de son dessinateur et en tirer le maximum. Aller vers là où il va se faire plaisir d'abord, parce que quand il va se faire plaisir à dessiner, il va être bon. Et ensuite, là où il va être efficace et dans un élément où il est à l'aise. Après, on rajoute des petits éléments pour le mettre mal à l'aise et créer des petits décalages. Mais ça, c'est dans un deuxième temps. Au départ, il faut quand même, pour reprendre un exemple, Tarquin est un professionnel, je lui aurais écrit un polar avec des histoires de bagnoles et de poursuites de bagnoles, il l'aurait fait, il aurait su le faire, c'est son métier, il sait le faire. Il se serait emmerdé, et comme il se serait emmerdé, le bouquin n'aurait pas été bon. Donc, je savais que Didier avait envie d'animaux fantastiques, il avait envie de grandiloquence, de péplum, lui il fait des très grands décors, des armées de milliers de personnes, il avait envie de choses comme ça, donc paf, j'ai écrit l'histoire aussi en fonction de lui. Donc le dessinateur, c'est un peu cyniquement, je dirais que pour le scénariste, c'est un outil qu'on doit apprivoiser pour arriver à faire passer vraiment ce qu'on a soi-même envie de faire passer dans le récit. D'un côté un peu moins cynique, je dirais qu'il faut qu'on soit quand même deux personnes qui aillent dans la même direction et qui racontent la même histoire. Il m'est arrivé une ou deux expériences malheureuses d'être avec un dessinateur qui racontait une histoire alors que moi j'en racontais une autre et ça n'a pas fait du tout des bons bouquins et c'était catastrophique. À ces moments-là, on le voit tout de suite quand il y a inadéquation entre le récit du scénariste et la façon dont il est mis en image par le dessinateur. Donc voilà, les relations au dessinateur, pour moi, ça doit être des relations proches. D'ailleurs, je travaille en... j'écris pas mon album d'un coup. J'écris, pour vous donner un exemple, ce matin à l'hôtel, j'ai écrit 2 pages d'écho. Hier, dans l'avion, j'ai écrit 1 page de Troll. Et hier matin, avant de partir de l'atelier, j'ai écrit 1 page de Lanfeust. Donc voilà, j'écris toutes les séries en parallèle les unes aux autres. Ce qui, pour moi, me permet... dès que j'ai un blocage à un moment donné dans mon histoire, au lieu de rester devant mon ordi, devant l'écran blanc de mon Macintosh, je ne serai plus de page blanche, mais au lieu de rester devant l'écran à buter, à rien trouver, je dis non, hop, je referme ce dossier-là, j'ouvre une autre série, et hop, là ça vient, et généralement le cerveau est une machine formidable. Le premier blocage, en fait, inconsciemment, il continue à tourner en tâche de fond. Et des fois, ça prend une semaine, et puis paf, on rouvre le dossier, et clac, on a trouvé, on sait où on est dans le bon. Donc j'aime bien travailler en parallèle, généralement 4-5 séries en parallèle en même temps. Après, pas plus, hein, parce que plus de 4-5, ça devient vraiment une jonglerie un peu complexe. Mais avoir quand même plusieurs possibilités, suivant les jours, suivant l'ambiance. Des matins où j'arrive au studio et où j'ai absolument pas envie de faire de la fantasy, ça ne dit rien. Donc là, je fais du Léo Leden, ou je suis sur d'autres projets aussi, d'autres choses. Voilà, il y a des personnages que j'ai envie de retrouver certains matins, d'autres non, je les ai trop vus ces derniers temps, je les laisse reposer un peu, et je passe de l'un à l'autre comme ça.
Une question là-bas ?
Comment vous écrivez les scénarios par texte, par schéma ou directement ?
Alors concrètement, oui c'est vrai, j'ai pas donné d'exemple, concrètement moi je travaille avec la bonne vieille méthode à l'ancienne qui était celle de René Goscinny, donc... Quand on suit ce genre de méthode, on ne peut pas trop se gourer. C'est un deux colonnes, une page entièrement écrite, bien sûr, en deux colonnes. Après, séparation image par image. Dans la colonne de gauche, description de chaque image. Plan large de la salle, 40 personnes sont assises à des petits pupitres avec une petite tablette. 5 sont accoudés au bar. Derrière, baie vitrée, on voit les immeubles. Extérieur nuit, éclairage intérieur. Il y en a un qui s'approche de la porte, voilà, je fais de la description globale de l'image que j'ai en tête, et dans la colonne de droite je mets le texte, donc là le dialogue ouais.
Et pour le scénario principal il n'y a pas
le scénario principal,
c'est comme dire, t'as pas un ensemble quelque part où t'as déjà fait, comme tu disais tout à l'heure,
tu avances,
ouais, t'as,
oui,
t'as
dans j'ai un synopsis mais qui tient en 15 lignes, hein. C'est un pitch en fait, j'ai le pitch de mon album qui est grosso modo quelle va être l'intrigue, le fil et où je dois arriver à la fin de l'album, mais généralement je l'ai noté dans un coin, mais bon, par la force des choses je l'ai en tête, je sais où je vais aller, et donc après mon scénario c'est page par page, j'ai cette description, ce découpage image par image que j'avance. Et en même temps, je donne au dessinateur une petite feuille où je lui indique la taille des cases avec les numéros des cases. Donc, pour savoir si c'est une grande image, une petite image. Parce que, évidemment, là, l'image que je vous décrivais, celle qu'on voit là, ça va être au moins une bande en entier. Après, toi, tu poses une question, ça va être gros plan sur toi. Donc, ça va être une plus petite image qui pourrait être insérée dans la grande ou pas. Il y a quand même toute une partie de mise en scène qui fait partie du travail du scénariste aussi. Après, bon, ta question sur le synopsis global, je dirais que pour des débutants, il est indispensable de le faire. Moi, je m'en suis affranchi au bout de quelques années, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, je suis beaucoup à l'impro, mais c'est vrai que quand on débute, je conseille là quand même d'avoir un synopsis séquencé, c'est-à-dire que, et je le fais encore d'ailleurs des fois sur des bouquins quand je ne suis pas tout à fait sûr de moi, ou sur des premiers tomes d'une série, où je ne connais pas encore mes persos vraiment. Donc là, c'est un synopsis. Alors d'abord, tu écris quand même toujours ton pitch en 10 lignes. Et après, tu vois, par exemple, pour Echo, la nouvelle série avec Barbucci, le pitch, c'était une fille d'aujourd'hui est dans le vol pour New York. D'un coup, une espèce d'étrange créature vient lui voir, lui demande si elle accepte un héritage. Elle dit oui, il y a un éclair, et elle se retrouve dans le dragon qui fait le vol régulier. Au lieu d'être dans le 747, dans le Dragon qui fait le vol régulier entre Roissy et New York, et elle arrive à New York, et New York est une ville de fantasy. Elle va devoir accepter l'héritage, elle trouve, elle hérite d'une agence artistique, et en fait, l'intrigue, ça va être qu'il va falloir qu'elle se débarrasse du fantôme de sa tante qui vient hanter sa personnalité en trouvant qui a tué sa tante. Voilà, donc ça c'est 10-15 lignes. Et à partir de là, j'ai ma structure, j'ai mon point de départ, toujours un peu plus développé, et après j'ai ma structure, mais qui tient à un fil, qui est le personnage est tenté par un fantôme, il faut qu'elle résolve la mort de ce fantôme pour être libérée du truc. Point. Et il faut toujours avoir une intrigue très simple. être capable de la résumer très simplement. Si on n'est pas capable de résumer son intrigue en 10 lignes, c'est qu'on n'a pas une bonne histoire. C'est le principe, c'est comme au cinéma, ce qu'on appelle le pitch, hein, le pitch elevator, parce que dans les studios américains, on devait, quand on trouvait un producteur dans l'ascenseur, être capable de l'accrocher et de l'intéresser à l'histoire le temps de la montée de l'ascenseur. Donc on avait droit à 20 secondes. Quoi. Et d'où l'importance d'avoir vraiment un truc simple. Je parle toujours pour le type de scénario que je fais. Hein. Après, si tu as un polar super complexe avec 12 suspects, avec un truc à la Dick Tinaigre, là c'est un autre type de construction. Mais l'avantage d'une structure simple, c'est qu'elle va te laisser la place autour pour broder, pour avoir des scènes de comédie, pour avoir des scènes d'action, pour visiter ton monde et ton décor. Et c'est très important. Je m'aperçois, moi, des fois dans les albums, quand j'arrive dans une série autour de l'album 6, 7, et que je sais que j'ai prévu en 8 albums, à ce moment-là, il faut que je fasse avancer l'intrigue de fond. Je me suis beaucoup promené jusque-là, mais je sais qu'au 8e album, il faut que j'ai bouclé l'intrigue de fond. Donc, je vais devoir expliquer beaucoup d'éléments, amener beaucoup d'éléments, et ça me donne des albums plus arides, parce que j'ai beaucoup moins de place pour la comédie, beaucoup moins de place pour l'exploration, pour le plaisir, pour le fun. Donc, souvent, un top 6, d'un coup, on va avoir bon, bah, voilà, plus d'infos. En même temps, ça fait avancer le récit. Alors, il y en a qui aiment plus le côté déconnant dans les albums, il y en a d'autres qui préfèrent le côté qu'est-ce qui va arriver au héros. Souvent c'est aussi parce que j'ai la chance d'avoir un public assez large en termes de tranche d'âge, bah souvent les plus jeunes sont ah mon dieu, qu'est-ce qui va arriver à l'enfeust, bah les grands ils savent bien qu'il va gagner à la fin quoi, hein, donc ils s'en foutent un peu, l'essentiel c'est qu'on se marre bien entre temps, donc voilà, ça touche un peu tout le monde, tu vois, le cycle l'enfeust de 3, c'est quoi, je te fais le pitch, couillon cherche épée, voilà. L'histoire, elle est là. Hein. Et après, tout le reste, c'est brodé. Hein. C'est...
Donc, bah, vas-y.
Est-ce que c'est pas un peu dommage, peut-être, d'avoir une inégalité comme ça dans les albums d'une série, d'avoir un condensé plus important dans un tome plus petit, 6, et d'avoir...
Bah, des fois, j'en connais que ça fait partie de mes défauts. Des fois, c'est pas toujours très bien équilibré. D'un autre côté, ça correspond aussi au rythme, parce que c'est la même chose à l'intérieur d'un album, si tu veux. C'est-à-dire qu'autour de la page 30, entre la page 30 et la page 40, tu amènes un climax, il faut que ça bouge, en même temps tu dois résoudre les trucs. Donc tu as moins le temps pour des petites scènes de vie quotidienne marrantes, mais en même temps ça va avec un rythme de lecture, parce qu'au début tu t'installes dans un bouquin, tranquillou, et puis après, hop, tu augmentes le rythme. Et comme au cinéma, tu montrais le truc de plus en plus rapide, avec de plus en plus d'élites, c'est un séquençage plus rapide, et comme tu fais monter l'adrénaline et le rythme cardiaque, si tu veux, et hop, tu arrives à la fin du bouquin, et ça va beaucoup plus vite. Alors, le bouquin n'est pas équilibré, mais en même temps, ça correspond aussi à un mode de lecture, et à l'intérieur d'un cycle, c'est un petit peu la même chose. Sauf que dans le cycle, évidemment, ça marche quand tu lis tous les bouquins d'un coup, quand tu lis le tome chaque année qui vient de sortir, tu n'as pas le même effet. Évidemment.
Oui. Après, je voulais revenir sur vous parliez du pitch qui peut être à peu près de 10 minutes. Par contre, bah, par exemple, le 3 qui est quand même assez conséquent, est-ce qu'il ne faut quand même pas définir quand même faire.
L'univers doit être défini.
Ah, voilà, définir bien l'univers.
Oui, l'univers doit être défini. C'est-à-dire que là, je parlais de l'aspect histoire. Mais par contre, si on fait des histoires dans des mondes fantastiques, il faut bien connaître son univers. Moi, je suis un visuel qui fonctionne beaucoup aux cartes, donc j'ai commencé, comme beaucoup, par dessiner mes cartes de façon très très précise, parce que les cartes m'amènent des idées d'histoire, elles donnent une réalité à l'univers. J'ai écrit des petits bouts, mais c'est entièrement pour moi, si tu veux. Grosso modo, j'ai créé ma doc. Si je vais faire une série historique sur le 15e siècle, je vais aller chercher de la doc sur le 15e siècle. Là, je suis dans le monde de Troie, et ben, j'invente la doc sur le monde de Troie. Donc, je me suis fait avant, pour moi, des tas de... pas des fiches, mais oui, des tas de trucs sur la façon dont fonctionne tel ou tel... dont fonctionne le conservatoire d'Ecmule, dont fonctionnent les pouvoirs, évidemment, sur l'histoire même du monde de Troie. C'est pour ça que le jour où je fais Les Conquérants 3, en fait, moi, depuis le début, je savais que ça avait été une planète colonisée. C'était des éléments que j'avais en place. Et voilà, je construis tout ça. Par contre, quand vous envoyez un scénario par la poste à un éditeur, ce n'est pas la peine de le noyer dans tous ces trucs-là. Ou alors, il faut le présenter en annexe. Mais il ne faut pas le mettre en début de dossier. Parce que en début de dossier, on va commencer à lire ça, on va dire, oh là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est compliqué, c'est... Non. En début de dossier, on doit mettre les trucs, justement, un pitch très clair, dire de quoi on parle, série, horreur, fantasy, humour, clac. Même si après, c'est pas exactement ça, mais donner une idée, un petit pitch clair, le petit résumé, et après, un synopsis séquencé. Donc là, ça va être un synopsis de 3 pages à peu près, où tu vas avoir à chaque fois 10 lignes pour raconter ce qui se passe en 2 ou 3 pages de l'album. Donc ta page 1, 2, 3, ils sont au village. Je suis toujours dans l'Enfeuse de Troie, mais l'Enfeuse, c'est jeune forgeron dans un village. Il est en train de forger une épée, il rejoint sa copine. À ce moment-là, un chevalier arrive, on l'appelle à la forge. Page 4, 5, 6, il commence à forger l'épée. À ce moment-là, il touche le pommeau, il s'aperçoit qu'il y a un pouvoir magique. Là, page 7, 8, il voit le vieux sage, il décide de partir avec Mule. À chaque fois, une dizaine de lignes avec un séquençage comme ça de tes pages. Donc ça, tu as intérêt à quand même le faire. Alors je dis, même si moi je ne le fais plus toujours, mais c'est quand même une base de sécurité au moins quand on débute. Ce que je conseille, c'est de le faire. Et puis après, on n'est pas obligé de le respecter parce que on peut toujours trouver des meilleures idées. L'avantage aussi, justement, d'écrire ce synopsis séquencé, c'est que on écrit les premières idées qui viennent. Enfin, on travaille, on le retravaille. Hein, ça, de toute façon, on est toujours à revenir sur tout ce qu'on a fait. Mais une fois qu'on a mis une idée au clair, elle encombre plus l'esprit et elle permet de prendre du recul par rapport à elle et de la revoir proprement et de pouvoir, à partir de cette première idée un peu basique, de l'affiner ou de la modifier, d'aller un peu plus loin. Mais on arrive à aller plus loin que quand on a écrit les choses. Tant que c'est pas écrit, on n'en est pas quelque part débarrassé, donc on continue à tourner en rond sur le même truc. Une fois que c'est écrit, on peut le remettre en cause, on peut chercher plus loin.
Mais par ailleurs, de Tarkin qui avait réussi à vous coller une chèvre et une poule dans certaines cases, quelle latitude en fait on laisse au dessinateur lors de la scénarisation?
Alors, ça, c'est une relation qui s'instaure avec chaque dessinateur, il n'y a pas de règle. Il y a des dessinateurs qui vont être très demandeurs de liberté. Donc, moi, ma règle, c'est d'être au départ très très précis, de donner le maximum d'éléments au dessinateur, sachant qu'il n'a pas l'obligation de tout utiliser, qu'il peut aussi changer mes cadrages, changer ma mise en scène. Par contre, ce qu'il n'a pas le droit de changer, c'est de commencer à décaler des images d'une page sur l'autre. Parce qu'on calcule toujours sa fin de page, donc il ne faut pas qu'il commence à... Mais à l'intérieur même d'une page, un dessinateur peut recomposer différemment. Moi, j'ai fait une proposition de découpage. Il peut voir les choses différemment, parfois rajouter une case, en enlever une, me dire, écoute, les deux cases, là, je les ai groupées, ça marche bien, en une seule. Tarkin, par exemple, lui, je sais que sur les scènes d'action, je lui prévois toujours des pages avec un peu moins d'images que d'habitude, parce qu'il va surdécouper et rajouter des petites images muettes d'action. Donc voilà, après, c'est un équilibre qui se trouve en fonction du dessinateur. Mourier, par exemple, sur les trolls, c'est quelqu'un qui suit à la lettre strictement, exactement tout ce que je lui écris, qui a jamais changé une ligne, qui a jamais changé un truc, enfin une ligne, ça, j'ai jamais laissé personne changer une ligne de mon texte. Par contre, sur le texte en lui-même, le dialogue, là, je suis impitoyable. Mais Jean-Louis a respecté toujours mon découpage et ça marche très bien aussi. Ça dépend de la personnalité du dessinateur. Il y en a qui ont envie de juste de rajouter des petites conneries dans les coins, tout ça, Mourier aussi, il en rajoute, il s'amuse à rajouter dans le décor, dans les choses sans importance, des petits éléments. Et il y en a d'autres qui ont envie d'être plus associés au scénario au départ. Donc, avec qui on va plus discuter, avant que même que je commence à écrire, on va discuter des personnages, on va faire des recherches de personnages ensemble, définir les physiques ensemble, parce qu'ils ont des suggestions à faire. Alors que moi, au départ, je propose évidemment une description des personnages, mais des fois, ils peuvent avoir des meilleures idées. ça dépend vraiment du dessinateur et de son implication et de la façon dont il a envie de s'impliquer.
Oui.
Vous êtes toujours en recherche d'une nouvelle histoire, d'un nouveau scénario, ou il y a des époques où vous avez réussi à vous contenter, enfin, satisfaire de ce que vous aviez?
Ben, le problème, c'est que j'en ai toujours. J'ai toujours plein d'histoires que je n'ai pas du tout le temps de faire et plein de projets que je n'ai pas le temps de mener et que ça ne serait pas raisonnable parce que le principe des séries en BD, c'est que quand une série est commencée, on la continue. Et moi, mon rêve, ça serait de faire que des tomes 1. Et après, de laisser d'autres filer le bébé aux autres. Allez, bon, c'est bon, vous démerdez. Parce que le plus fun, c'est de mettre en place une histoire, de mettre en place un univers, de créer des personnages. Et des tomes 1 potentiels, j'en ai 10 dans les tiroirs, quoi. Mais là-dessus, bon, alors, de temps en temps, j'arrive à finir une série, à la boucler, et hop, là, on peut repartir sur autre chose. Là, par exemple, dans 2 ans, on aura fini Les Forêts d'Opale avec Philippe Lelay. Donc, on est déjà en train de commencer à réfléchir à l'histoire suivante. Avec Alberto Varanda aussi, on va terminer Elixir dans 2 ans. Donc, il fait un autre album entre-temps, et après, il fait le dernier Elixir. Et donc là, on va commencer à réfléchir à une autre histoire. Mais moi, j'ai déjà plein d'idées, plein de projets et plein de choses qui traînent. Là, tu vois, j'ai pu commencer Echo cette année. Il y avait longtemps que je n'avais pas attaqué une nouvelle série. Putain, ça m'a fait du bien, quoi, de repartir sur un monde nouveau, des personnages nouveaux. Parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai qu'on commence à avoir de la lassitude de certains personnages. C'est pour ça que, des fois, on se débarrasse d'un personnage, hein. On en flingue un ou on l'oublie quelque part, et puis on continue avec d'autres groupes, on ramène des nouveaux personnages, parce qu'on a un peu fait le tour. Voilà, sur l'Enfeuse, il y a un moment donné où je le sentais plus du tout. Ce qui m'a fait faire deux mauvais bouquins, parce que après le cycle de l'Enfeuse des Étoiles, je m'étais bien marré, je trouvais qu'on était bien, et j'avais envie de faire une pause. De faire un an de pause avant de reprendre le nouveau cycle de l'Enfeuse, parce qu'il y avait un cycle suivant de prévu. Et finalement, Didier Tarquin n'a pas voulu, il a voulu qu'on réenchaîne tout de suite. Lui, il avait envie de faire du comics à ce moment-là. Donc, on a fait. Et moi, je suis parti sur une mauvaise idée. Je me suis dit, l'Enfeuse est revenu sur 3, il est jeune, donc on va le recoller étudiant. Et là, j'ai fait 2 bouquins, les 2 premiers de l'Enfeuse Odyssée. Que je sentais pas, en plus Didier avait voulu changer de coloriste, il voulait plus de notre coloriste traditionnel qui est Claude Guth, que je m'en fous, j'ai récupéré sur Itac par contre, parce que Claude c'est le meilleur coloriste du monde, donc jamais je le lâcherai, coloriste des trolls toujours. Et voilà, et on est parti là sur un truc un peu bancal, parce que j'avais une lassitude du personnage de l'Enfeuse à ce moment-là, j'ai essayé de renouveler le personnage, en lui redonnant un peu sa naïveté, sa jeunesse et tout ça, et je suis parti dans une mauvaise direction. Et puis au tome 3, là on s'est dit, non, en fait c'était la mauvaise idée, on n'était pas dans le bon mood, et au contraire c'est l'inverse qu'il faut faire, il faut le vieillir, il faut lui faire prendre plein la gueule, le faire morfler, faire un l'Enfeuse beaucoup plus mûr, un l'Enfeuse qui en fait, chez qui on ressente tout ce qu'il a vécu pendant les 2 cycles précédents, et qui porte un peu plus le poids du monde sur ses épaules. Et Didier s'est mis à le dessiner avec des faux airs de blueberry, avec les pattes, avec un côté, un visage beaucoup plus marqué. Et là, clac, l'Enfeuse m'a de nouveau intéressé, parce que c'était un nouveau personnage. C'était plus le même l'Enfeuse que celui qu'on a connu sur l'Enfeuse de Troie, puis l'Enfeuse des Étoiles. C'était un nouveau bonhomme. Donc à nouveau, clac, j'ai accroché au personnage. Et à partir du 3, là, je suis content des bouquins qu'on a fait, le 3, le 4, le 5... Alors que, bon, je ne suis pas super satisfait du 1 et du 2. Bah, de toute façon, j'ai 120 bouquins derrière moi, on ne peut pas en avoir fait que des dont on est content. Hein. Je crois que y en a, sur les 120 bouquins, il y en a 30 dont je suis vraiment très très fier. Il y en a 30 que j'aurais aimé refaire. Et puis le reste, bon, que je trouve sympa. Voilà. Et puis il y en a 3-4 vraiment... Mais d'ailleurs, vous les trouverez nulle part, j'ai fait en sorte qu'ils ne soient plus édités et ils n'existent plus, voilà.
Christophe, j'aurais une question. Moi. Sur une bande dessinée où tu utilises l'humour, est-ce que ça a une spécificité dans les scénarios de passer, toi, tu as une règle pour ça?
Oui.
Parce que l'humour, bon, si tu fais de l'aventure simplement ou comment dire, la science-fiction pure, donc si tu as une BD d'humour, je pense que dans la construction du scénario, tu es obligé quand même d'y réfléchir à l'avance. pour placer justement ce que tu
les points de l'humour. L'humour, j'y réfléchis pas justement. C'est chez moi ma façon d'écrire. J'ai l'impression d'écrire des BD d'humour avant tout. C'est pour ça ce que j'expliquais tout à l'heure, que j'ai des trames d'aventure assez simples en elles-mêmes. La seule exception, c'est la BD où il n'y a pas d'humour du tout, c'est Les Forêts d'Opale avec Philippe Pellet, parce que son trait ne s'y prête pas, parce que lui n'avait pas envie qu'il y en ait. Et ça m'a posé au départ d'énormes problèmes d'écriture. J'ai fini par résoudre d'une façon très simple, parce que quand j'écris, je rajoute des conneries, moi, elles me viennent automatiquement. Je vois la situation, je vois le truc, j'ai envie de faire balancer une vanne au mec. J'écris dans l'humour avant tout. Donc, Opale, il fallait que j'écrive sérieux, et je bloquais, jusqu'au moment où je me suis dit, non, écris comme d'habitude, et puis une fois que tu as écrit tes 4 pages, t'enlèves toutes les conneries, et comme ça, il ne restera que le sérieux. Voilà, donc Opale, c'est en réalité, j'écris l'équivalent de 70-80 pages pour un album qui va en faire 44, mais si je n'écris pas mes conneries, je bloque, donc voilà. L'humour ne se prémédite pas, quoi. C'est vraiment le truc qui vient naturellement. C'est pour ça que je me définis avant tout comme un scénariste d'humour avant d'être un scénariste d'aventure ou de fantasy ou de polar ou de quoi que ce soit.
Et tu peux nous dire un mot sur une série aussi que tu as commencé sous un autre nom, sous Christophe Colin, qui est la série Chimère?
Oui, alors ça, dans Chimère, c'est vrai qu'il n'y a pas d'humour, mais là ça ne me vient pas à l'idée d'en faire. Et là je travaille avec une co-scénariste de toute façon qui est Mélanie, donc ça c'est chez Glénat. Au départ c'était un peu un petit challenge qui était une commande d'une boîte de prod télé qui à la demande de Canal+ voulait faire une série sur les bordels au 19e. Donc là j'en parle donc à une amie co-scénariste, Mélanie. On monte tout un projet qui s'appelle Chimère, et Mélanie me dit un jour, non, notre histoire elle est bien, le truc tient bien, par contre, il faut que la gamine ait 13 ans. La gamine qui se retrouve dans le bordel a 13 ans. J'ai dit, mais t'es cinglé, elle dit, oui, mais d'abord c'était la réalité, et d'autre part, c'est ce qui va pouvoir nous permettre de faire une histoire forte, parce que cette gamine, au lieu d'en faire une causette, et au lieu d'en faire une victime, on va en faire une fille forte et manipulatrice. Et c'est elle qui, en fait, évidemment, va manipuler et va prendre le pouvoir. Et évidemment, ça va laisser psychologiquement des séquelles, parce que ce genre de situation, évidemment, ne peut pas laisser indemne un psychisme. D'où le titre, d'ailleurs, Chimère, avec le S entre parenthèses. C'est parce qu'à un moment donné, elle commence à devenir un peu schizo. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de rencontrer Charcot, les débuts de la psychiatrie. Enfin bon, là, il y a toute une recherche historique qui me plaît beaucoup. Et c'est vrai que là, quand je suis avec une gamine de 13 ans dans un bordel, enfermée dans un bordel au 19e, non, l'humour me vient pas, quoi. J'ai pas envie de balancer trop de vannes là-dessus. Le travail avec ma co-scénariste aussi nous canalise là-dessus. Et donc, juste pour terminer rapidement l'histoire du truc, c'est que la boîte de prod a trouvé ça génial. Ils ont dit « fabuleux ». Les mecs de Canal ont dit « ouais, fabuleux ». Bon, par contre, elle a 18 ans. Hein. Elle a dit « bah non, parce que tout le ressort du truc, c'est justement le fait que c'est une gosse. Et à la place, ils ont fait maison close. En gardant, par ailleurs, un certain nombre d'éléments du boulot qu'on avait fait, sans jamais nous payer. Mais bon, ça, c'est les boîtes de prod télé. Faites de la bande dessinée, rentrez pas dans le circuit de la prod télé, c'est l'horreur. Je referme la parenthèse. Donc cette série, on l'a proposée chez Glénat. Là, on est au troisième album qui vient de sortir, on est sur le quatrième. Et là, c'est une série, alors que j'ai signé Christophe Pelinck de mon vrai nom et non pas Arleston, non pas parce que je voulais prendre un pseudonyme, d'ailleurs c'est pas un pseudonyme, pour une fois c'est mon nom, simplement parce que je voulais pas que le public de gamins qui a l'habitude d'acheter du Arleston en disant « Ah, c'est comme les trolls, on va rigoler », tombe là-dessus, quoi. Donc, même... Parce que là, par contre, au point de vue scénaristique, c'était extrêmement complexe à gérer, non pas pour l'histoire en elle-même, l'histoire, elle est complexe, mais elle est intéressante dans sa complexité, mais et pour le scénario et pour le dessin, on est dans une situation où on tenait à ce qu'il n'y ait pas la moindre once d'érotisme dedans. Or, on est quand même dans des pages où, pendant les trois quarts de l'album, on est dans un bordel avec des filles à trois quarts à poil et il fallait pas que ça soit érotique, parce qu'on voulait montrer que le côté sordide de la chose. Mais, alors ça, ça demande beaucoup de subtilité au dessinateur, et heureusement, là, on a trouvé Vincent, un dessinateur admirable pour ça, qui arrive à désamorcer toute la situation. Là, c'est des moments où le scénario devient un travail complexe, le dessin devient un travail complexe, parce qu'on joue avec des grenades dégoupillées un peu. Pour parler crûment, il y a deux enfants, mettez les doigts dans les oreilles, mais pour nous, si jamais un mec avait bandé en ouvrant cet album, c'était l'échec total, c'était l'inverse de ce qu'on voulait. Il fallait que ce soit... il fallait que ça reste... qu'on soit en empathie avec le personnage féminin, avec cette gamine. Mais non, tu peux enlever les oreilles. Je rigolais. Et je voulais qu'on soit en empathie avec cette gamine, et qu'en même temps, sans la trouver sympathique, parce que son côté fort, son côté, une des premières scènes du bouquin, elle organise elle-même les enchères, où elle met aux enchères sa virginité. Donc on voit tout de suite, dès le départ, on pose le côté en affrontant la mère Macrel. Donc on pose tout de suite le personnage. Et ça, c'est passionnant à écrire, parce que là, c'est vraiment travailler des psychologies, aller très loin dans des personnages. Et voilà, les seuls petits clins d'œil qu'on s'est amusé à faire, c'est montrer Maupassant qui est là, parce que c'est un client régulier. C'est plus des clins d'œil à des personnes, bon, Charcot évidemment, mais qui lui a un rôle dans l'histoire. Montrer des personnages de l'époque, et bon, oui, là en effet, il n'y a pas d'humour. Mais voilà, c'est une série que j'aime beaucoup. C'est un travail complètement différent que j'aurais sans doute pas su faire il y a 20 ans. Hein. Là, ça m'a demandé, aujourd'hui, j'arrive à un âge où j'arrive à aborder ces sujets où on doit laisser tomber la pudeur quand on écrit. Parce que quand on fait de l'humour, l'humour, c'est facile, on se mouille pas. On n'a pas d'implication personnelle et on n'a pas de... on met de soi, bien sûr, dans les personnages, dans les situations, mais on reste toujours masqué quand on fait de l'humour. Là, quand on va dans ce genre de série, on est obligé de mettre un peu plus ses tripes sur la table, et moi, c'est pas dans ma nature, même si je parle facilement devant vous, je suis pas un exhibitionniste de nature, j'ai du mal à livrer des histoires personnelles, des sentiments personnels, et là, dans ce genre d'histoire, on est obligé d'y aller. Là, il faut y aller, quoi. Il faut se mettre à poil, sans mauvais jeu de mots, et bon, c'est compliqué. C'est un truc que j'aurais pas su faire quand j'avais 25 ans.
Oui.
Dans quoi ?
Dans 3.
Oui.
Oui, ça pour plusieurs raisons. La première, c'est essayer de faire dessiner à Tarquin une fille qui ne soit pas sexy, il n'y arrivera pas. Et puis, non, là c'était volontaire, on voulait deux pin-up. On voulait deux pin-up parce que...
Et le scénario, c'était déjà...
Oui, parce que mon idée de base, c'était ce que je savais quand je commençais le monde de Troyes, ce que je savais, c'est qu'on avait donc ce monde où chacun avait un pouvoir, qu'évidemment le héros, lui, avait dans certaines circonstances un pouvoir qui pouvait être un pouvoir absolu. Et ce que je voulais surtout, c'était, ce que je savais, c'est que j'avais un niaiseux de 16 ans. Le ressort, si tu veux, c'est qu'on avait ce garçon de 16 ans qui était un héros capable de sauver le monde, de tuer des dragons, qui avait peur de rien, mais qui était, comme on était tous à 16 ans, un couillon devant les filles. Et les deux filles, elles ont 16 ans aussi, mais les filles de 16 ans sont beaucoup plus malines et beaucoup plus intelligentes que les mecs de 16 ans. Les jeunes, la méfiez-vous, hein, quand vous grandirez un peu. Montrer à quel point ce type, qui est le héros absolu, se retrouvait complètement nié et désemparé devant les deux pin-up. Voilà, ça, c'était mon point de départ. J'aime bâtir des triangulations psychologiques dès le départ, parce que c'est ce qui va porter après tout le reste du truc. Donc il fallait qu'elle soit mignonne, quoi, pour qu'il soit en train de baver devant elle, on n'allait pas faire des moches non plus. Voilà.
Oui.
À propos des filles, justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce processus par rapport à Sixi? Donc on l'adorait, elle avait une grande gueule, vachement de personnalité, là elle prend un petit coup de vieux dans la route des étoiles et pouf, vous l'abandonnez et pouf, elle réapparaît sous forme d'ersatz, j'ai envie de dire, dans l'enclos de lycée.
Oui, alors là, Sixi, évidemment, Sixi, c'est un des personnages les plus intéressants. Je suis désolé, t'es blonde, mais voilà, il y a la blonde, mais qui est un peu fade, et puis il y a la brune piquante qui est l'emmerdeuse. Hein, donc. Sixi, on la retrouve. Pour nous, c'était très très émouvant de la retrouver 18 ans après, même si évidemment, on ne l'avait pas quittée 18 ans. Mais d'arriver à définir le personnage qu'elle avait pu devenir pendant ses 18 ans, où on retrouve cette fille qui a 35 ans, donc, 35 et quelques années, qui est toujours aussi sublime, mais avec une beauté un peu différente, et qui est mûre, et qui est beaucoup plus mûre que l'enfeu, c'est ce qui fait que ça ne va plus pouvoir marcher entre eux, parce que ils sont plus... elle a un vécu qu'il n'a pas eu, vu qu'il y a eu ce trou temporel, pour ceux qui n'ont pas lu l'histoire, à un moment donné, il fait un saut dans le passé, il revient, mais il y a eu une erreur dans le voyage retour, et en fait, il revient 18 ans plus tard. Donc, il retrouve tous les personnages qu'il a connus, mais tous les autres ont vieilli 18 ans, alors pour lui, il s'est passé 6 mois. Donc, voilà, et y compris sa fiancée. Et il se retrouve un fils, au passage. Donc, le personnage de Sixi, à ce moment-là, reste dans les étoiles, ne peut plus le suivre, ils peuvent plus, leur relation ne peut plus fonctionner. C'est une des rares pages d'émotion d'ailleurs, quasiment silencieuse, où j'ai réussi à fermer ma gueule et à pas mettre de dialogue pendant une page entière, ce qui est quand même de ma part très très dur, parce que dès que je vois une case, il faut que je rajoute une bulle dedans. Et après, dans le nouveau cycle, là, on n'a pas pu encore le développer, le personnage de la nièce de Sixi, qui n'est pas un ersatz justement, qui est celle que tout le monde compare sans cesse à sa tante, et elle, ça la gonfle, et elle trouve ça insupportable, et elle n'a jamais vu sa tante, elle ne la connaît pas, mais tout le monde la compare, elle s'appelle Sixi, elle porte le nom de sa tante, parce que c'est comme ça dans les familles, on redonne les noms, surtout que l'autre a disparu, donc voilà, et elle se révolte contre ça, et quand on la retrouvera, parce qu'il est prévu qu'on la retrouve un peu plus loin, elle aura volontairement changé son nom, et aura tout fait pour se débarrasser de cette personnalité qui n'est pas la sienne et qu'on lui a collée. Mais là où tu as raison, c'est que dans les deux premiers albums, justement, comme je disais tout à l'heure, dont je ne suis pas satisfait à 100%, j'avais cette intention et on ne la sent pas assez. Et je ne l'ai pas assez montré. Il y a juste des moments où elle rembarre l'enfeuste en lui disant « Non, mais je suis pas ta tante, pour qui tu me prends, vieux con ?» d'un coup, on voit une Sixi qui n'est absolument pas intéressée par l'enfeuste, alors que la Sixi qu'on connaissait a toujours été amoureuse de l'enfeuste. Mais je suis pas allé assez loin à ce moment-là. Mais là-dessus, on va se rattraper un petit peu plus tard.
Et donc, on n'aura jamais de comeback de Sixi.
Alors, never say never, mais la Sixi qu'on connaît, celle qui est restée dans les étoiles, j'aimerais bien qu'on la revoie un jour. Je ne sais pas encore quand ni comment, mais de toute façon, c'est un personnage qu'on a envie de revoir. Mais avec Didier, on en parlait encore il y a 3 jours. Ce qu'on a quand même surtout très très envie de faire, c'est raconter ce qui s'est passé pendant ces 18 ans. Parce que on la quitte fugitive et enceinte sans le savoir de quelques jours, quelques semaines, et puis on la retrouve établie faisant partie des 13 plus grands princes marchands et tout, donc il s'est passé des tas de choses pendant ces 18 ans, et en fait notre envie elle tient sur une image, hein, une seule, c'est qu'on est juste avec Didier, on fonctionne beaucoup des fois sur des images, on va construire toute une histoire autour d'une seule image. L'image elle est simple. C'est Sixi habillée avec une combinaison, j'ai un côté un peu SF, avec un gros gun dans une main et un bébé dans le bras dans l'autre main. Et d'avoir cette image de cette nénette qui est là et qui va devoir se démerder et essayer de s'en sortir avec un nourrisson sur les bras et un flingue dans l'autre main, à partir de là, Didier et moi, on est en plein délire là-dessus depuis 2 ans, on n'a pas le temps de le faire. Mais on sait qu'on finira par y venir un jour, quoi, parce que là aussi, il y a une histoire qu'on a envie de raconter.
On va s'arrêter là parce que il y a quelqu'un. Okay. Ah, il y a une question, donc pardon, excusez-moi.
Question. Vous avez parlé des Goscinny tout à l'heure. Quelles sont vos références au niveau des scénaristes humoristiques? Et puis,
les références en.
Quid d'un Astérix?
Un Astérix, il me semble qu'il y a Jean-Luc Ferry qui en a fait un très bien, là. Donc. Et moi, je dois faire un Spirou avec Didier Conrad, justement. Le Spirou avait été arrêté parce que Didier dessinait le Astérix, mais le Spirou va reprendre. Évidemment, Goscinny, je suis comme tout le monde. J'ai lu tous les Astérix ou les Lucky Luke quand j'étais môme, j'ai adoré ça. Il fait partie de ceux qui ont forgé un peu ma façon d'écrire, même si évidemment, on n'est jamais forgé par une seule personne. Et tout ça, ça se mélange avec en bande dessinée un autre scénariste, dessinateur, qui était formidable, qui s'appelle Maurice Tilleux, qui faisait Gilles Jourdan. J'ai toujours adoré Tilleux. Et Gilles Jourdan, ça m'a beaucoup marqué. Mais en même temps, le cinéma aussi, les dialogues de Diard aussi. Tout à l'heure, j'étais à une autre table ronde, je parlais des romans de Jack Vance et de l'humour de Jack Vance. Et les Jeeves de Woodwoods. C'est un mélange d'énormément de choses. J'ai entendu, c'est vrai, de temps en temps, ce truc extrêmement flatteur où, avec le vrai, faux, mauvais compliment, où on dit « Ah, vous êtes un peu un nouveau Gossier ». Non, surtout pas. De toute façon, c'est pas la même génération, c'est pas les mêmes références, c'est pas la même culture. Évidemment, il y a des points communs parce qu'il m'a influencé comme beaucoup d'autres m'ont influencé. Et Astérix, je sais pas si je saurais en faire un, c'est encore autre chose. Moi, je suis beaucoup trop irrévérencieux, je crois, dans mon humour pour pouvoir être un bon scénariste d'un album comme ça. Déjà, je vais essayer de pas trop abîmer Spirou. Mm-hmm. Fabien Valman qui arrive et qui passe après, j'espère qu'il m'en voudra pas de lui bousiller un peu son perso, mais voilà.
Encore une question ?
Vous avez parlé de Simax tout à l'heure. Est-ce que quand même vous suivez des règles de construction de scénario ou
avec... Oui, disons, oui, je les suis un peu instinctivement parce que, si tu veux, voilà, je démarre toujours une mise en place, quel va être l'objet de l'album, donc de quoi on va parler, quelle va être la problématique qui doit être résolue à la fin de l'album. Parce que si tu veux connaître la fin, il faut quand même savoir quelle est la problématique au début. Après, des scènes où tu mets en place, tu peux un peu t'amuser, développer un peu ton univers. Après, tu dois avancer dans l'action. Et c'est vrai que généralement, autour de la page 35, tu sais, quand tu vas à 45 pages, grosso modo, entre la 35 et la 40, ça doit s'accélérer. Tu dois, dans le cadre de séries comme L'Enfeuse ou autre, tu dois à ce moment-là être au cœur même de l'action et commencer à résoudre ton problème, histoire d'avoir, le gros dénouement qui va se passer autour de la page 40, pour avoir un peu, parce que ça, moi j'aime bien redescendre un petit peu à la fin et avoir un petit poste, quoi, avoir la petite séquence poste où on respire, où on a un petit... Sauf quelques albums que je termine sur un cliffhanger à suivre, et puis ça énerve tout le monde, il faut attendre un an. Mais sinon, j'aime bien qu'il y ait une petite respiration en fin d'album, qu'on finisse pas sec, clac, the end, voilà, qu'on ait un petit... Donc là où je ramène un peu de comédie souvent sur une petite fin d'album. Et voilà, il faut... J'aime bien emballer le rythme entre la page 35 et la 42-43, quoi. Mais bon, après, c'est pas du tout des règles obligatoires, hein. En plus, c'est une règle qui m'est pas... c'est un petit peu la règle du blockbuster américain de base, hein. Pour être tout à fait honnête. Mais bon, contrairement au blockbuster américain de base, j'essaie de ne pas être chiant dans cette partie où on est uniquement dans l'action, quoi. C'est un truc, c'est pour ça que les films de super-héros m'emmerdent. Je trouve généralement la première demi-heure des films assez sympa, et puis après c'est baston, 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 et puis là je m'endors, quoi. Donc j'essaie d'éviter ça dans mes albums.
Merci à vous. Merci Christophe. Je crois que
de rien.
Ça a été relativement convaincant. Donc, tant est pour vous. Merci.